Donc on commence pas par le printemps des poètes, on est bien d'accord?
Non, non.
Ok,
non, non.
Alors on le fera à la fin.
Bonjour Anthony.
Bonjour, je vais mettre le générique maintenant. Je sais c'est succinct, mais on se retrouve après.
Il est bien ton bouquin? Casse pas des briques. Il tient. Je comprends rien.
J'ai lu un livre une fois, ça m'a rien fait.
Je vais peut-être dire une bêtise, La Peste.
La Peste, ah non. Ah oui, si, c'est Zola.
C'est Camus.
Camus, ah bon, bon.
Mais ça veut dire quoi? C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux.
Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part.
Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard?
Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie.
Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi.
Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres.
De la poésie, c'est la souffrance qui est féconde. Mais nous en reparlerons plus tard, Anthony Clément. Joli printemps, plein de poésie. Qu'est-ce qu'on écoute, qu'on lit?
Un ouais. Gros coup de cœur,
ah,
un vrai talent.
Un gros big up.
Un big up, voilà, j'ai ramené ça dans mes bagages, sur ma petite virée montréalaise.
Ah oui.
Voilà. Ça sort chez en France, aux éditions Les Avrils, qui font un merveilleux boulot, et je les salue par vos ondes.
Oui. Vous nous avez expliqué, ouais, ça fonctionne pas comme chez nous, sur un plan purement d'édition, de l'édition, là-bas.
C'est passionnant comme sujet, mais il faudrait vraiment une chronique entière.
C'est vrai.
Mais c'est vrai.
Next.
La francophonie a ses surprises, ses amours et ses limites aussi.
Ouais.
Voilà, il y a des publications outre-Atlantique qui sont d'une grande qualité et qui arrivent en France sous couvert d'originalité alors qu'elles ont déjà une vie ailleurs. Dans les pires des cas, on en lisse le texte pour enlever un petit peu les québéquismes et autres.
Ouais, les québéquismes.
Voilà. Ouais. Et on en change les titres aussi.
Ouais.
Mais ça reste des découvertes. Donc là, c'en est une, par exemple. Ça s'appelle Un grand bruit de catastrophe d'un certain Nicolas Delisle-Lheureux.
Même le nom est cool.
Le prénom a son importance aussi, malgré tout, parce qu'il m'a fait penser à un autre Nicolas. Un grand bruit de catastrophe, c'était sorti au Québec, à Montréal, l'an passé, ou il y a 2 ans, sous le nom Les Enfants de Chienne.
Un grand bruit présenté. De catastrophe.
De Nicolas Delisle-Lheureux.
Pas l'enfant, hein.
Non, donc pour l'anecdote, je disais avec ce titre-là, Nicolas Delisle-Lheureux est né dans les années 80. C'est pour ça qu'il me fait penser à un autre Nicolas. Il est né à Gatineau.
Nicolas Ray?
Non, pas Nicolas Ray, mais vous vous en rapprochez. Bref, c'est son deuxième roman. Il écrit assez lentement. Il travaille dans le secteur social. Et ce qui donne, je pense pas forcément que son boulot donne une dimension sociale à son roman. Il n'empêche que c'est quelqu'un qui aime, qui est à l'écoute de la psychologie humaine, des humanités, quelque part. Voilà, mais il le dit lui-même dans des interviews. Voilà, c'est pas un travailleur social et pas forcément quelqu'un qui peut peindre aussi la société. Comment
c'est
dire,
pas les cordonniers. Il est mieux chaussé.
Exactement. Il n'empêche, Nicolas Delisle-Lheureux, donc sorte de Nicolas Mathieu, non, québécois, voilà, avec qui il partage le prénom. Donc, comme je disais, on se situe, alors pas du tout dans sa ville natale, mais plutôt au nord. On est proche du Labrador, côte nord canadienne, près du Labrador canadien. Sorte de ville-îlot, paumée dans la nature, dans la grande belle nature, mais surtout dans la rude nature aussi. Et rude, il n'y a pas que la nature qu'il est dans ce roman, puisque les personnages
les
sont.
Les autochtones.
Oui, voilà, autochtones. Et c'est bien, hein, vous êtes très très bon, hein, malgré tout.
Jusque malgré tout.
Non, parce que le autochtone, non, mais vous faites toujours des très jolis ponts. Autochtone m'amène vers un autre nom, parce que les habitants de cette ville, ils les appellent des Wananish.
Le Wananish.
Ouais, les Wananish.
Dans le Labrador.
Dans le Labrador. J'avais même pas fait le lien. Les Wananish, vous savez ce que c'est les Wananish?
Allez-y.
En anglais, on appelle ça des landlocked. Salmon. Landlocked, ça veut dire enclavé, et saumon. En fait, c'est un particularisme d'un saumon, c'est-à-dire qu'il a les mêmes caractéristiques que les saumons de l'Atlantique.
Pisciculteur.
Voilà, mais sauf qu'il vit que dans un lac. D'accord. Enclavé, il ne fait jamais le chemin qu'on connaît des saumons, enfin voilà, différent des saumons de l'Atlantique. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une belle métaphore pour parler de l'atmosphère des villes qui sont des atmosphères que vous avez connues, enfin que j'ai connues moi aussi à Mont-de-Marsan, c'est-à-dire qu'on se retrouve, on a des enfances heureuses, on peut le dire.
Et enfin, on s'emmerde le dimanche.
Non, enfin moi en tout cas, mon enfance était heureuse ici, dans nos contrées landaises. Mais à l'adolescence, voilà, quelques formes de violence apparaissent, des volontés d'en découdre aussi avec les déterminismes, alors plus généraux, hein, sociétaux, mais aussi les déterminismes de nos territoires. Et on se retrouve, c'est vrai, avec l'impression, des fois, de pression de désillusion, d'échec, de déréliction, qui nous dit, au fond de nous-mêmes, qu'on passe à côté de grandes choses. Certains s'en vont, vivent de grandes choses, puis reviennent. D'autres reviennent jamais, d'autres ne partent jamais. Ce qui est hyper intéressant dans ce roman, c'est ce sentiment-là, en fait. La métaphore du wananish, du saumon bloqué dans son lac, c'est un peu ça en fait, c'est-à-dire toute tentative de se barrer.
C'est l'Hollandais qui est allé au maximum à Bordeaux dans sa vie.
Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on toute tentative de départ régulièrement avorte dans un sentiment aussi d'échec. On ressent aussi cette peinture des villes moyennes, cette peinture des années 90, et ce sentiment justement voilà, d'enclaver, d'échec, de volonté d'en découdre. Les trois personnages sont vraiment super, ils forment un trio flamboyant. Voilà. Donc on retrouve les deux garçons, Marco et Laurent, ou Lawrence, et surtout Louise. Louise, elle me fait penser voilà, au personnage de Dalva dans Jim Harrison, avec une belle formule quoi, qui dit qu'elle souhaite relancer les dés. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'elle va avoir une enfance somme toute assez heureuse, l'adolescence vivre un drame, j'en dis pas plus, tomber enceinte très très tôt à l'adolescence, le gamin va être plus ou moins placée, mais elle va tenter dès l'âge adulte, après, de venir en découdre justement avec ses déterministes, de revenir à Val-Gré-de-Gouard, de retrouver ses amis et de relancer les dés. Ce qui est très intéressant, c'est qu'entre le roman social, de temps en temps, si on n'a pas mis les pneus de neige, en fait, on glisse assez vite dans le fossé du roman noir, du polar. En découdre, c'est vraiment en découdre.
18 en métaphore au bac.
Et donc, au-delà de cette dimension sociale, un peu polar, un roman avec des personnages extrêmement bien campés, et notamment le roman de Louise. Donc voilà, très 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 beau roman, c'est aux éditions Les Avrils de Nicolas Delisle-Heureux, et ça s'appelle Un grand bruit de catastrophe, et normalement, il devrait venir dans l'année.
D'accord. Bah, d'ici là, il va y avoir donc le printemps des poètes, alors, je ne sais pas, il y aura peut-être l'automne des romanciers, l'hiver des essayistes, enfin on pourra enfin en faire plein. On fait une pause musicale et on revient causer notamment de poésie, puis un petit bouquin aussi à mettre dans la poche.
Baby!
Seconde partie de nos rencontres littéraires, de nos échanges avec des mots et avec des gens qui savent les mettre en page, voire même qui les éditent. Anthony Clément, un bouquin à mettre dans la poche.
C'est intéressant, voilà, aussi de parler des sorties poche, parce que c'est vrai que des ouvrages en grand format qui nous arrivent de contrées lointaines, ouais, avec qui sont épais, intelligents et qui nécessitent des traductions coûtent cher au final. Autour de 25-30 euros, ouais, c'est un investissement. Donc leurs parutions en poche sont importantes, surtout quand c'est un de nos énormes coups, ouais, de cœur. Très brièvement, lorsque Le Dernier Arbre, j'en avais déjà parlé, ah oui, sur vos ondes, de Michael Christie, ancien skater pro, ouais, arrivé à la littérature avec virtuosité pour ce roman, de manière intelligente, ambitieuse, mais sans se casser la gueule, très fin.
Il a panacé pour un skater.
Il fait un très très beau parallèle entre ce qu'il appelle le grand dépérissement, qu'il annonce par son roman,
pas confondre,
qu'il annonce par son roman dans les années 2030, et la grande dépression des années 30. Donc il fait un très très beau parallèle, c'est un peu le on va dire en filigrane, la dimension subtile, politique, un peu triste aussi de ce roman, mais profondément humain. Et il connecte tout ça, en fait, en faisant l'histoire de quatre générations d'une famille, surtout des coupeurs de bois, toujours en lien avec la nature. Et il montre comment, en fait, sur toutes ces années, toutes ces décennies, donc de 1908 à peu près jusqu'à 2038, eh bien, on fait n'importe quoi, que ça nous amène vers un mur et qu'on va tous être des Ayrton Senna dans pas longtemps si on continue dans cette direction. Donc, on a un très, très beau roman avec des personnages pareils, tout aussi mémorables, avec des rebondissements qui sont liés aussi à ce que vont traverser ces quatre générations d'une seule et même famille, qui vont plus ou moins s'opposer ou pas, voilà. Il y a une volonté de recherche, il y a un travail qui a été effectué, ça c'est clair, sur ce que l'on a vécu au XXe siècle, mais il y a une dimension visionnaire aussi. Une dimension visionnaire qui est là, qui est palpable, mais qui est pas mal amenée, quoi, pour un jeune auteur, qui est quelqu'un qui a énormément travaillé. Donc, initialement publié chez Terre d'Amérique, de très très belle façon, chez Albin Michel, voilà, une très très belle collection. Là, il est enfin sorti au livre de poche, voilà, il y a à peine une dizaine de jours.
Voilà.
Bref, et maintenant, poésie.
Ah, alors, terminons par là où j'ai pas commencé, avec le printemps des poètes.
Un rendez-vous extrêmement important pour nous. Bon, je suis pas... voilà, on va dire que les initiatives nationales, on les suit pas toutes.
Ouais.
Mais on a une appétence pour la poésie qui est tout au long de l'année. Donc on profite malgré tout du printemps des poètes pour accentuer les rendez-vous autour de la poésie.
Je peux me permettre, ouais, c'est hyper bien décliné. Sans flagornerie aucune.
Ouais.
Ouais, il y a de la musique, il y a une éminence, il y a de l'agriculture, il y a... Voilà,
ouais,
c'est tout.
Merci, ça fait plaisir.
Vous êtes bien fait.
Oui.
Vous êtes appliqué.
L'intérêt, c'est de mettre... énormément de sens dans ce qu'on fait, déjà pour les équipes, donc je salue les équipes qui m'aident à faire la programmation, et puis pour les auteurs et les créations, et là on est vraiment sur des créations, des hommages, des anniversaires, de belles initiatives. Donc on commence cette semaine avec Bienvenue en Exopotamie, donc vendredi soir à partir de 19h. Exopotamie, en fait, c'est une jeune maison d'édition, elle doit compter une dizaine de titres au catalogue. D'accord. Elle est née à Biarritz ou Bayonne, en tout cas c'est pas loin, dans le Pays Basque. Texte, voilà, j'en ai retenu trois, là, par exemple, Poésie Paléo de Maxime Morel. Pareil, belle ambition, quoi, pour une jeune maison d'édition qui est pas là, comme on entend beaucoup de jeunes poètes, poétesses ou slameurs, slameuses, genre à faire renaître la poésie. Mais qui est...
Ouais.
Alors la poésie, elle t'emmerde déjà.
En technique qui masque le vide.
Ouais, voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, non, la poésie, elle n'est pas du tout morte. Elle a toujours été très active. Et en plus, souvent dans les époques où les conflits sociaux, les volontés d'en découdre, comme dans le roman dont je parlais juste avant, mais de se positionner avec engagement dans la vie, de l'interroger ou de prendre du recul, justement, aussi pour regarder véritablement ce qui nous accable. Donc voilà, la poésie, elle est là. Et une jeune maison d'édition vient de naître. Voilà, un texte à retenir, Poésie Paléo de Maxime Morel, on tentera de l'inviter. Belle découverte aussi, Tom Saja, cette main qui tient le feu. Là, on l'a carrément invité, il viendra fin septembre. Mais surtout, la parution hier.
De celle qui sera là vendredi.
Voilà, exactement. Donc, le livre s'appelle Le sang des filles de Julie Nakache. Julie Nakache, bon, c'est pas sa première virée en poésie. Elle fait beaucoup, beaucoup de choses. On est vraiment dans la féminité, dans ce qu'elle a de plus transmise de génération en génération avec une langue qui mâche pas ses mots. Le sang des filles, c'est vraiment le sang des filles aussi, et le sang des filles qui se transmet. C'est une poésie qui nous tarde, voilà, de d'entendre, parce qu'elle sera accompagnée donc par François-Pierre Foll, super violoncelliste,
super musicien même.
Voilà, super musicien. Donc du coup, ce sera, on fera une petite présentation autour de la maison d'édition, et ensuite on laissera la parole à Julie Nakache pour ce tout récent recueil de poèmes. Donc je vous invite à venir, c'est une belle découverte. Il y a beaucoup de choses ce soir-là. Il y aura d'autres rendez-vous autour de la poésie, et on salue notamment le Merle Moqueur, qui recevra Lou Sarabatit à la même heure. Bon, c'est une belle concurrence, quoi. Donc voilà, on essaiera de commencer un peu plus tard, mais voilà, donc ça, ce sera le vendredi à partir de 19h. On commencera à 19h30.
Oui, et à se projeter, donc à venir, on aura l'occasion de l'évoquer dès la semaine prochaine, une soirée Bernard Mancier le 18.
Oui, Bernard Mancier, de mémoire, né le 27 septembre 1923. Voilà, donc on sera
vraiment Anthony sur Wikipédia Clément.
Sur le centenaire de sa naissance, donc une soirée vraiment dédiée à Bernard Mancier.
Et à venir aussi le 24, je parlais d'agriculture, l'agriculture poétique, avec le divin Clément Baillet, et j'aurais dû commencer par elle, la sublime Marie Fischer, exact. Où l'on parlera de chèvres du côté de la Chalosse et du Tursan, mais pas que.
Ouais, et puis de poésie dans l'agriculture.
La poésie suinte, la poésie est partout, vous marchez dessus.
Merci encore pour ce relais de tout ce que nous proposons. Merci aux auditeurs, auditrices qui deviennent des lecteurs, lectrices.
Merci Anthony Clément.